C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Première nouvelle ce matin, c'est évidemment ce qui se passe à Baltimore, au Maryland, alors qu'on a appris que dans les dernières heures, il y a un immense navire, un bateau, qui a frappé, qui a percuté le pont de Baltimore. Et le pont s'est presque effondré en totalité. Richard Châteauvert est avec nous. Richard, qu'est-ce qu'on sait donc de cette terrible tragédie?
Bon, c'est arrivé un peu avant 1h30 ce matin. Un porte-conteneur de 948 pieds de long a percuté un pilier du pont Francis Scott Key à Baltimore. Ce pont chevauche la rivière Patapsco. Et les vidéos qu'on a vues nous montrent que le pont, qui mesure près de 2 km et demi de long, s'est effondré. Le Dali est un navire battant pavillon singapourien qui avait quitté Baltimore mort à 1h du matin pour une expédition de 27 jours en direction de Sri Lanka. Lors de l'effondrement, il y avait plusieurs voitures et un semi-remorque sur le pont. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées à l'eau et on les recherche depuis le début de la nuit. Une opération a été déployée, des petites embarcations, un hélicoptère sont sur place, des plongeurs sont dans les eaux depuis plusieurs heures. Et l'eau, la température de l'eau, Paul, actuellement est de 8 degrés. On estime qu'une personne peut survivre environ 3 heures dans de telles conditions. Or, ça fait déjà 4h30 que l'incident s'est produit. La question est de savoir, est-ce que c'est un acte accidentel ou un acte intentionnel? Ce qu'on sait, c'est que donc le navire porte un pavillon singapourien, donc de la République de Singapour. La société propriétaire du navire a été contactée et collabore avec les autorités américaines. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a déclaré l'état d'urgence. Il y a une opération qui est dirigée par le gouverneur et le secrétaire au transport Pete Buttigieg. Donc, une vingtaine de personnes qui seraient tombées à l'eau après que le pont d'une hauteur de 350 mètres a été percuté par ce porte-conteneur qui est très, très long, hein, comme je l'ai dit, 948 pieds de long. Et les opérations se poursuivent. Il fait encore, évidemment, c'est encore la nuit. Le jour n'est pas encore levé à Baltimore. Donc, on attend de voir les résultats. Est-ce qu'on va retrouver des survivants? Mais au moins une vingtaine de personnes se sont retrouvées à l'eau. Et encore une fois, comment est-ce que ça a pu se produire, un porte-conteneur si long qui percute le pilier d'un pont? L'enquête est ouverte, mais actuellement, c'est l'opération sauvetage qui est importante et qui se déroule.
Et juste pour préciser aux auditeurs, ce pont là, qui est quand même imposant, c'est un pont, une structure massive, c'est un lien de transport majeur pour la région.
Oui, c'est un lien de transport majeur, surtout pour le transport de produits dangereux et de camions. Donc, il y avait peut-être des produits dangereux qui étaient transportés par ces camions. C'est le pont Francis Scott Key de Baltimore. Ce n'est pas le pont que les Québécois empruntent pour aller en direction de la Floride. Il y a un tunnel à Baltimore. Donc ça, c'est vraiment pour transporter les marchandises et surtout les produits dangereux.
Merci, Richard. On va se reparler plus tard. Et si vous n'avez pas vu encore les images, c'est absolument incroyable de voir que ce pont, donc une immense structure, s'effondre littéralement, pratiquement au complet, et parce que c'est cet immense bateau qui a donc frappé la structure. Maintenant, on va revenir sur l'attentat de Moscou. Vladimir Poutine finalement reconnaît que ce sont des islamistes radicaux qui ont mené l'attaque, tout en disant que l'Ukraine pourrait avoir sa part de responsabilité. Donc, c'est la première fois qu'il reconnaît que l'attentat près de Moscou est l'œuvre de cette branche de l'État islamique. Premier constat. Deuxième, ce matin, on en apprend un peu plus sur les individus. Et on a vu le défilé des accusés qui se sont fait tabasser, qui ont été torturés. Certains ont de la misère à rester conscients dans le box des accusés. D'autres arrivent pratiquement avec une jaquette d'hôpital, un cathéter, poussés, en fait installés sur un fauteuil roulant. Donc, ils ont été battus à répétition et ils auraient fait des aveux. Et ce qui est très difficile à comprendre, c'est quand vous regardez, par exemple, les vêtements que portent les terroristes présumés, ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui sont vus sur des images vidéo qui ont été prises pendant l'attentat. Et l'attentat a été d'une extrême violence. évidemment des armes à feu, des explosifs, genre cocktail Molotov. La structure de cette salle de concert a été durement touchée. Il y a eu incendie, effondrement. Et en plus, ils se sont enfuis au volant d'un véhicule facilement identifiable. Habituellement, des gens vont tenter d'avoir des portes de sortie beaucoup plus complexes que ça, vont changer de vêtements, vont se débarrasser des armes, ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de ça et l'impact également de ce qui s'est passé à Moscou. Ce qui m'amène au troisième point, la France qui, encore une fois, réitère qu'il y a une menace terroriste à la hausse et qui peut prendre toutes sortes de formes. Vous avez le premier ministre qui a donc maintenu ce qu'on appelle le dispositif Vigipirate, qui a donc été amené à son niveau maximal, c'est-à-dire urgence d'attentat. Et on craint, évidemment, que cette menace déclenche des attentats sur la France, téléguidés depuis la zone de l'Asie centrale et ciblant de jeunes individus présents en France. On a répertorié les gens qui sont fichés pour avoir des liens, certaines connexions avec des groupes radicaux. Et d'ailleurs, on lance des opérations quand même, dit-on, à travers la France pour localiser un certain nombre d'individus. Et puis, la guerre Israël-Hamas, les frappes continuent sur Gaza malgré l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu immédiat. Ça a été appuyé par les Américains. Et Israël est furieux. Israël ne comprend pas pourquoi ils sont mis de côté par les États-Unis. Oui, un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui serait associé, si vous voulez, à une négociation autour de la libération d'otages israéliens et de détenus palestiniens. Mais pour l'instant, il y a eu des frappes aériennes tout près de Rafah. C'est une ville qui est située à la pointe sud de Gaza. Alors, donc, dans ce sens-là, rien ne se calme. C'est vraiment encore beaucoup de turbulences dans la région. Et puis, Haïti, pas de nouveau, pas de fumée blanche. Toujours des tractations entre les différents partis politiques. Les événements violents se multiplient. Le Canada qui va évacuer des Canadiens qui se trouvent dans une situation quand même assez précaire. Mais depuis, donc, que les gangs ont vidé une prison, que le premier ministre se cache en exil, qu'il annonce qu'il va démissionner quand il y aura un nouveau gouvernement, ben il semble que il y a vraiment une collision d'intérêts. Et c'est malheureusement le propre d'Haïti d'être incapable d'arriver avec des solutions politiques pour instaurer un espèce de régime démocratique. Puis on peut dire ça, puis en même temps, même si vous nommez un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement, de quelle façon les gangs de rue vont réagir? L'éclipse. Je sais pas comment vous en parler. On va le faire avec des experts ce matin, mais il y a quelque chose de pathétique dans la gestion d'un événement prévisible comme celui-là. C'est pas une surprise là, qu'il y a une éclipse le 8 avril. Pour les amateurs météo qui se demandent quelles sont les prévisions, c'est un peu loin. Pour l'instant, on parle d'un ciel variable. Donc, il y a des écoles qui vont vivre l'expérience avec les élèves, d'autres écoles qui ont choisi que ce sera une journée pédagogique. Et il y a des avis qui sont envoyés par le ministère de l'Éducation. Le ministre Bernard Drainville est obligé de sortir pour préciser ce que sa bureaucratie a envoyé comme message dans le système. C'est, encore une fois, un exemple parfait de la maison des fous. Et M. Drainville a dit « J'invite les écoles qui avaient prévu des activités le 8 avril à les maintenir. » Je vais vous donner un exemple des procédures concernant l'éclipse dans un centre de service scolaire. D'abord, on explique que pour les élèves qui seront présents, aucune nouvelle notion doit être présentée à l'élève pendant la journée du 8 avril parce qu'il va manquer des enfants. Donc, on ne veut pas être en mode rattrapage. Pas d'évaluation. Les élèves quittant à 11h20 seront reconduits, comme d'habitude, par les profs vers la porte. Ça, c'est pour le préscolaire. Les élèves du primaire, avant d'aller dîner, il faut qu'ils soient prêts à partir. Il faut rester en groupe et on va utiliser des walkie-talkies. Je vous le dis. Nous avons assez de lunettes pour tous les élèves et le personnel enseignant. Les lunettes vont être distribuées vendredi 5 avril. Et lundi 8 avril, avant le dîner, vous devrez les remettre aux élèves. pour qu'il soit prêt pour le phénomène. Les déplacements ne sont pas autorisés avec ses lunettes. Les déplacements devront être faits dos au soleil ou en regardant par terre. Il y a des profs qui se sont fait dire d'acheter ce qu'on appelle du papier craft pour bloquer les fenêtres, pour être sûr qu'il y ait une noirceur, de présenter des films dans certains cas. Les élèves doivent être minutieux pour ne pas égratigner le matériel de la lentille. Pour cette raison, les élèves du préscolaire à la deuxième année auront des lunettes, mais ils pourront pas sortir. Et je pourrais continuer, c'est sans fin. Puis là, il y a une formation de 3 heures qui est proposée aux profs, etc. Je vous rappelle que l'éclipse totale va durer 1 minute 38 dans le cas qui nous intéresse. Ça peut aller jusqu'à 3 minutes, puis dans d'autres cas, c'est 35 secondes. Mais comment se fait-il? Puis ça, c'est un exemple, là. J'en ai plein de profs qui me racontent ces directives-là. Quand vous avez le ministre, le sous-ministre, le centre de service scolaire, après ça, l'initiative des écoles, bien, en plus, savez-vous quoi? Les parents sont pas bien mieux parce qu'il y a des centres et des écoles qui ont envoyé des sondages aux parents disant « Faites quoi avec votre enfant le 8 avril? » Puis les parents répondent pas. Ils ont pas le temps. Ils sont trop occupés. Ça les intéresse pas. Alors, tu sais, une affaire qui devrait être une expérience belle, enrichissante pour tout le monde est en train de devenir une caricature, est en train de devenir une farce monumentale illustrant ce qu'on appelle la lourdeur bureaucratique qui caractérise tellement de situations au Québec. Puisqu'on parle d'éducation, je vais vous dire ce matin que Radio-Canada nous apprend que les fameuses bourses qui ont été accordées depuis la pandémie pour faire en sorte de combler des postes, notamment dans le réseau de la santé, les bourses qui sont données de 1 500 $ au cégep et de 2 500 $ à l'université par session terminée, ben ça n'a pas d'effet. Ça ne fonctionne pas, ça coûte une fortune. Et dans le fond, les étudiants qui, par exemple, ont pris le chemin de la santé ou du génie, ben ils seraient allés pareil, sans les bourses. Ça, c'est constat numéro 1. Le constat numéro 2, t'as beau dire « prenez des gens », mais est-ce qu'on a la capacité de les former? Et je vous donne quelques chiffres qui sont... qui découle de ce programme là de Bourse Perspective Québec, notamment pour ce qui est de l'enseignement, quand vous comparez les demandes d'admission collégiale en 2022 et 2024, c'est en baisse de 5 %. En génie, ça a marché un petit peu, une augmentation. Dans le cas de la santé des services sociaux, c'est à peu près un effet nul, là, moins 1 %. Mais donc, ça démontre que finalement, ça n'a pas... donner l'espèce de boom pour ce qui est de la formation de la main-d'œuvre. Fait qu'encore là, il y a probablement des enjeux à venir là, de cette pénurie qui caractérise le réseau de la santé depuis des années. Et aussi en éducation, ça c'est une affaire assez extraordinaire, des parents qui poursuivent un prof d'art plastique à l'école secondaire Westwood à Saint-Lazare. L'enseignant s'appelle Mario Perron et les parents le poursuivent pour 1,8 million de dollars. On lui reproche quoi? D'avoir reproduit les dessins des enfants sur des tasses à café et d'autres objets promotionnels. Autrement dit, le prof s'est servi des dessins des enfants pour faire des bidules qu'il a mis en vente et donc pour faire de l'argent. Il semble que ce sont des élèves de M. Perron, nous dit-on dans Le Devoir ce matin, qui ont fait une recherche en ligne pour voir les accomplissements professionnels de leur enseignant. Et ils ont découvert que l'enseignant a mis en vente sur 2 sites web, sans leur consentement, 31 articles différents, dont des tasses à café, des toiles, des coussins, des décorations, des sacs et des vêtements. Et c'est là qu'on reconnaît le dessin des enfants. Alors, c'est donc une poursuite quand même majeure, 1,8 million. Et les prix pour les tasses et les autres items, ça varie entre 9,50 $ américains et 113 $ américains. Alors, quand même, il faut le faire. Aussi, ce matin, on apprend qu'à l'Université de Sherbrooke, il y a eu des initiations dégueulasses l'automne dernier. C'est une enquête qui est publiée ce matin par Radio-Canada et qui nous démontre que on pensait que le phénomène était réglé, là, que l'humiliation s'était terminée. Ben, pas en tout. Ce sont les étudiants en biologie qui ont été, semble-t-il, d'après leur témoignage, arrosés de force avec de l'urine animale. On les a incités à se dénuder en public, à manger de la vomissure, à se faire insulter. C'est, je dirais, ce qu'on voyait il y a plusieurs années, ce qui avait été dénoncé. Et ça continue. Et ça continue. Puis ces comportements-là, je sais pas, on dit souvent que les gens vont pas bien, là. Mais il y en a des exemples nombreux. Hockey mineur, je vous le dis, vous êtes nombreux à m'envoyer là, des récriminations. Je le sais que c'est la fin de la saison. C'est la période des tournois. Mais c'est comme si les gens sont en train de devenir complètement, je dirais, hystériques avec ça. On a vu ces images hier. Il y a des auditeurs qui m'ont envoyé c'était un match qui opposait les Concordes de Mirabel et les Patriotes de Saint-Eustache à l'aréna de Boisbriand. Puis là, t'as un jeune arbitre. D'ailleurs, tu te demandes pourquoi quelqu'un veut être arbitre pour se faire crier après, se faire insulter. Donc, les parents, puis même le coach, là, les adultes, s'en sont pris verbalement aux arbitres. On a lancé une poubelle sur la patinoire, on a lancé des cafés. Et les jeunes, paraît-il, sont sortis du vestiaire, des kids de 12-13 ans, puis sont allés crier après l'arbitre. Puis ça, c'est un exemple. Là, je pourrais vous en donner d'autres ce matin que des parents partagent. Puis des frustrations. Les gens, ils m'envoient des tartines, là. C'est des frustrations. Le club a été mal évalué, mal placé, puis c'est une injustice. Puis comment ça se fait que mon enfant... Je comprends là, qu'il y a des tournois, puis qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais calmez-vous les nerfs. Je veux dire, ça demeure du hockey pour le plaisir, supposément. Et je me souviendrai toujours de cet appel dans une tribune téléphonique d'un monsieur qui était donc devenu un adulte, puis qui, on parlait de ça, et il racontait qu'il avait tellement honte de ses parents, que sa mère était une folle dans l'aréna, que son père n'arrêtait pas de crier, qu'à un moment donné, ça l'a dégoûté du hockey, puis il a arrêté, parce que ses parents, tu sais, t'as honte, tu te promènes sur la glace, t'entends crier ta mère, tu veux juste t'en aller, parce que t'sais, c'est gênant. Puis le mot est faible. Rapidement, dans les autres nouvelles, la presse nous dit ce matin que dans le procès de Robert Mueller, cet homme qui est accusé d'avoir exploité avec des intermédiaires des jeunes femmes sexuellement, ben une des victimes a reçu 50 000 $ dans une enveloppe l'an dernier. Et la Cour estime, la Cour supérieure, que la plaignante a renoncé à toute réclamation future contre l'homme, qui a plus de 80 ans et qui est malade. Donc, la poursuite tombe. Quel sera l'effet de cette décision sur les autres victimes? On ne le sait pas, mais on sait qu'on avait présenté cette affaire-là comme le système Mueller, une dizaine de femmes qui disaient avoir été forcées, ou en échange de cadeaux, mais elles étaient mineures, d'avoir des relations avec des relations sexuelles avec Mueller, un milliardaire entre 1994 et 2006. Il y a également ce projet de la Société d'assurance automobile qui revient avec cette idée de la reconnaissance faciale. Est-ce qu'on fait confiance finalement à la capacité informatique de la Société d'assurance automobile? La question se pose.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Ce matin, on va aborder la question des médecins de famille. Il y a eu ce dossier dans le Journal de Montréal où on a vu, par exemple, qu'il y avait quoi 37 000, 38 000 Québécois qui, dans le seul mois de janvier, se sont inscrits sur la liste d'attente pour un médecin de famille. Il y a des gens qui sont inscrits, qui sont pas capables d'avoir de rendez-vous. Il y a des gens qui passent par le guichet, ça prend des heures. Dans d'autres cas, ça fonctionne. Il y a comme deux entrées dans le système. Deux entrées principales. L'urgence et le médecin de famille. Puis dans les deux cas, c'est un accès qui est difficile. J'en parle avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Vous avez vu les chiffres dans le Journal de Montréal, vous les connaissez, vous avez votre tableau de bord. À quel moment on va sentir, nous les Québécois, une différence?
Bien, comme je l'ai dit, Monsieur Arcan, lorsqu'on a déposé le plan de santé, j'ai dit que j'avais un horizon de 2025. Je comprends que les Québécois trouvent ça loin, mais ce qui m'encourage, moi, depuis qu'on a mis le plan de santé, c'est que la tendance, elle s'améliore. Et 2025, c'est pas très loin, là. C'est toute l'année 2024 puis l'année 2025. Alors, quand vous me demandez quand est-ce qu'ils vont voir la différence, Moi, je la vois. Je vois qu'il y a des patients qui, des Québécois qui me disent que, qu'ils voient que c'est en train de s'améliorer, mais je vous répète, et je veux que tout le monde soit bien conscient de ça, c'est que c'est pas encore assez vite à mon goût, mais je pourrais vous donner des exemples concrets. Je regarde juste, vous parler de, du gap, du guichet d'accès qu'on a mis en place, là, qui avait été pensé à Rimouski. Je regardais les temps d'attente au gap, là, depuis 2 semaines, ils ont diminué de moitié. Alors donc, c'est-à-dire que ça fonctionne. On est capable de dire à des gens, il y a 5000 appels par jour au gap. C'est beaucoup, ça, M. Arcan. C'est 5000 personnes, il y a 2 ans, qui ne savaient pas où aller, ne savaient pas qui appeler. Maintenant, c'est clair, on peut appeler au 811 et soit se faire référer un médecin ou se faire référer un professionnel de la santé. Donc, c'est quand même un gros changement. Maintenant, ce que je vous
Mais est-ce que vous avez sur votre tableau de bord des chiffres qui montrent, par exemple, que cette personne a bel et bien été référée à un professionnel ou à un médecin, que cette personne a été vue dans un délai raisonnable par un médecin et un professionnel?
Oui, je pourrais vous les montrer, les tableaux, là, mais je vous dirais 60 % des gens qui ont appelé au GAP sont référés à un rendez-vous. Et à ce moment-là, je vais être capable de mesurer là, quand notre projet de règlement sur le PL11 va être en place d'ici quelques semaines. Je vais être capable de vous dire en plus comment ça a pris de temps, être capable de voir un médecin de famille. Alors donc, on a mis 2 étapes. On a mis le guichet d'accès pour s'assurer que les gens savaient où appeler. Puis deuxièmement, on va être capable de mesurer combien de temps ça prend de temps pour voir un professionnel de la santé.
Okay.
C'est quand même un gros changement depuis 2 ans.
Oui, mais en même temps, moi, je parle avec le docteur Abiot, président de la Fédération des omnipraticiens. Hier matin, il était ici à l'antenne, là. D'abord, les médecins qui partent à la retraite, il y a un pourcentage de médecins qui décident de quitter plus tôt. Il y a des médecins qui décident d'aller au privé. Le recrutement se fait difficilement. Je vois ce matin une étude canadienne de l'Institut canadien d'information sur la santé qui montre qu'il y a de plus en plus de médecins de famille qui font des soins spécialisés, que la médecine familiale intéresse pas tant que ça les étudiants. Autrement dit, là, le tableau que nous donne le syndicat des docteurs, là, c'est un tableau sombre, trop de paperasse. Je sais que vous avez réduit des choses, là, mais quand même, beaucoup de paperasse, beaucoup de médecins qui préfèrent aller se spécialiser que d'être sur la première ligne.
OK. On va les prendre une à la fois, M. Arcan. Tout d'abord, j'ai écouté moi aussi l'entrevue du docteur Amiot hier, puis écoutez, je comprends les récriminations qu'il a. C'est normal, il défend sa profession et c'est correct. Il a été excessivement collaborateur. D'ailleurs, les médecins en général, là, je le dis, ont pris vraiment des belles mesures au cours des 2 dernières années. Alors, je sais qu'on commence des négociations, alors j'entrerai pas sur ce terrain-là de dire il a dit ça ou il a pas dit ça. Moi, je suis pas là. Vous le savez, on a pris une stratégie avec le Front commun puis avec les infirmières qu'on ne commentait pas ce qui se passait durant les négociations. Je vais faire la même chose avec les médecins. Ceci étant dit, moi, je suis conscient, puis vous l'avez bien dit, l'enjeu de la médecine familiale, il est pas juste au Québec, c'est chronique au Canada. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis que je parle avec le docteur Amiot, on a une bonne collaboration, on a mis des mesures en place pour rendre ça plus intéressant pour les jeunes médecins. Je vous ai donné le gap, je peux vous donner une foule d'autres mesures. Ce qui est important, c'est de voir qu'on s'améliore. Prenez juste un exemple avec nos jeunes médecins. On fait de plus en plus de recrutement pour qu'ils puissent non seulement aller en formation en région, mais qu'ils puissent rester en région. On a changé, on a amélioré ce qu'on appelle le système de PREM, le rendre plus facile, plus intéressant. Alors, il y a une foule de mesures, mais encore une fois, M. Arcan, je le dis, quand je vous parle de mon horizon 2025, c'est un ensemble de mesures qui vont faire une différence.
Moi, je veux bien, mais ce que je constate, là, puis pas juste avec les médecins, là, puis je vais donner 3 exemples rapides. Les médecins, c'est un premier exemple de médecins là, qui décident de prendre la retraite plus tôt, de dire moi j'aime mieux faire autre chose, me spécialiser par exemple. L'autre élément, je regarde le message envoyé par la FIC. Je comprends vous voulez pas commenter là parce qu'ils vont voter, mais on peut pas dire que c'est un message invitant à joindre les rangs du système de santé publique qui est donné par le syndicat. Puis le troisième exemple que je pourrais vous donner, c'est que les primes en quête de Radio-Canada, là, de perspective, les bourses d'études, là, c'est-à-dire de Perspective Québec, ça a l'air que ça marche pas. Fait que moi, je suis pas convaincu qu'on va être en meilleure position en 2025.
Ben, au contraire, moi, je le crois parce qu'on y travaille très fort. Là, vous me donnez des exemples. J'irai pas sur la question de la FIC parce que lorsqu'on est en négociation, puis encore une fois, moi, je veux respecter le vote que les infirmières vont prendre dans la deuxième semaine.
Mais avouez que le message n'est pas hyper positif, là.
Ben, ça, il y a des stratégies syndicales que je ne commenterai pas de la même façon que je ne commenterai pas les commentaires des stratégies de fédération médicale. La même chose. Je n'irai pas là. J'aime mieux, moi, travailler avec ces gens-là en négociation, comme on dit, en sous-marin, puis essayer de s'entendre. Ce que je vous dis, cependant, M. Arcan, c'est que je les vois, les améliorations. Maintenant, nous, ce qu'il faut, c'est connecter tout ça ensemble. Vous me dites, par exemple, j'ai des médecins qui prennent leur retraite trop tôt. Je pense qu'une des raisons, puis j'en ai discuté avec le Dr Amiot, c'est parce que nos médecins étaient obligés d'arrêter tout d'un coup. On ne les laissait pas pratiquer à temps partiel. Ben, je me dis, un médecin qui a de l'expérience, pourquoi ne pas lui permettre d'avoir un retrait progressif? On est en train de discuter ça. Alors, je peux vous dire, puis là, je veux pas rentrer dans les négociations, mais il y a plusieurs choses qui sont en train d'être discutées avec eux, puis on va faire la même chose avec les spécialistes, parce que ça va ensemble. Si les médecins familles travaillent mieux avec les spécialistes, ben c'est qui va en bénéficier? C'est le patient. Alors, ce sont toutes des petites mesures qui, mises ensemble, visent, comme je l'ai dit, au cours des prochaines années, à améliorer. Mais moi, je les vois, les améliorations.
Mais est-ce que vous voyez une amélioration dans l'accès aux chirurgies?
Oui, je vous dirais, regardez, lorsque le docteur, puis là, je vous parle toujours des docteurs, parce qu'on a la chance d'avoir, entre autres, le docteur Oliva, qui est à la Fédération des spécialistes, il m'a dit à un moment donné, Christian, ce qui marche pas, c'est les heures d'ouverture des blocs opératoires. Hein? Vous le savez, vous n'avez entendu ça. Là.
Ben, j'en ai à peu près toutes les semaines des gens qui m'écrivent qui se sont fait flusher en fin d'après-midi alors qu'ils sont à jeun depuis le début de la journée.
Ben, c'est ça. Ça, c'est pas acceptable. Alors,
mais ça arrive tous les jours, là.
Oui, mais écoutez, M. Arcan, ce que je vous dis aussi, c'est que une fois qu'on connaît le problème, puis là, on le mesure, moi, j'ai mis en place un système pour voir quelle salle d'opération ne va pas jusqu'à 4 heures. Il y a combien d'opérations par jour qui sont cancellées? En ce moment, sur 1200 opérations par jour, il y en a 150 qui sont cancellées. C'est énorme, ça. Ça veut dire qu'à la fin du mois, là, c'est plus de 3000 chirurgies qui sont cancellées. Alors, donc, on a mesuré ça, puis on a écrit au PDG, puis on leur a dit, ça, on va le suivre de très près. Alors, il y a des efforts qui doivent se faire par le ministère, par les PDG, par leur gestionnaire, pour améliorer ça. Et encore une fois, je vous le dis, ce sont tous des petits efforts qui, ensemble, vont améliorer les chirurgies, l'accès, etc.
Parlons du secteur privé. Il y a le député Vincent Marissal qui constate, comme bien des gens, une variation dans les tarifs qui sont facturés par les médecins, ou privés 100%. Là. Je parle pas de médecins RAMQ, évidemment.
Oui,
là.
Oui, oui.
Mais qui se disent c'est 180, c'est 80, c'est 250. Est-ce que vous avez le pouvoir, puis est-ce que vous avez l'intention de légiférer sur les tarifs imposés par des médecins au privé?
Bon, j'ai eu cette rencontre-là avec M. Marissal vendredi dernier, et je lui ai dit qu'on était en train de regarder, justement, dans le cadre de nos négociations, puis ça s'applique autant aux médecins de famille qu'aux médecins spécialistes, qu'est-ce qu'on allait faire avec la question des tarifs? Au Canada, parce que nous, on est régi par une loi de la santé qui nous dit qu'on n'a pas droit d'avoir de la médecine privée sous certaines conditions. Je vous rappelle qu'en 2003, c'est le gouvernement avec M. Couillard qui a permis d'avoir des médecins qu'on appelle non-participants. On est la seule province qui permet ce retrait-là de façon pleine et entière, alors qu'ailleurs, ça se fait différemment. Alors moi, avant de vous répondre, puis comme je suis en négociation, j'ai regardé ce qui se passait au Canada. L'approche en Alberta est différente de la Colombie-Britannique, qui est différente de l'Ontario. Je suis en train de me faire une tête. On va discuter avec nos deux fédérations de médecins, parce qu'il y a bien des médecins qui sont pas à l'aise que des gens sortent de la pratique, parce que ça leur fait une charge supplémentaire. Puis je vous ferai un parallèle avec le projet de loi qu'on a fait sur la main-d'œuvre.
Mais là, je suis pas sûr que je comprends ce que vous me dites. Là, moi, je suis un médecin, je travaille dans un cabinet privé, 100%. Ouais. Les gens ont le choix ou pas de venir me voir. Allez-vous venir réglementer mes tarifs?
Je vous dis qu'on est en train de regarder toutes nos options. Puis ce que j'allais vous dire, monsieur Arcan, je vais être très clair. Il y a 2 ans, on a pris la décision qu'on allait interdire la main-d'œuvre indépendante, c'est-à-dire les agences privées. Puis il a fallu avoir une transition, il a fallu faire un projet de loi. C'est long, ces choses-là. Il faut que ça soit bien réfléchi. Alors, on le fait pour les agences privées.
Oui, mais ça, c'est en lien avec des contrats avec le gouvernement. Vous n'avez pas fait une législation qui empêche d'avoir une agence privée en santé.
On a fait une législation qui ne permet plus d'engager des agences privées au cours des trois prochaines années.
Au gouvernement, dans le secteur public, mais quelqu'un peut embaucher une infirmière au privé s'il le veut, là.
Ben alors, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce qui est possible de faire? Moi, j'ai juste un objectif, M. Arcand, c'est d'améliorer l'offre aux patients. Est-ce que les 700 médecins sur 20 000 médecins qui sont au privé, si on avait une meilleure organisation de leurs services ou un meilleur accès à leurs services, est-ce qu'ils nous permettraient d'avoir une meilleure offre aux patients pour que tout le monde puisse avoir accès?
Ça s'appelle une formule mixte, ça.
Ben, ça s'appelle une formule mixte, mais il faut voir de quelle façon ça peut être fait. Moi, ce que je vous dis, on ne fera pas ça de façon arbitraire. On va le regarder dans les prochaines semaines. Je vous répète, on est en négociation au cours des prochaines semaines et ça va être des choses qu'on va considérer.
Je vois ce matin l'enquête de Radio-Canada sur les fameuses bourses d'études perspectives. Là. Puis la conclusion, c'est que ça donne pas les résultats. C'est pas parce qu'on donne 2500 ou 1500 par session que, par exemple, pour santé et services sociaux, on a soudainement une vague. Est-ce que c'est de l'argent dépensé pour rien?
Bon, je crois pas, M. Arcand. Je pense qu'il faut mettre dans l'ensemble des actes qu'on a posés. Puis encore une fois, je reviens. Moi, j'ai des changements de fond qu'on fait qui sont majeurs. Les négociations collectives, c'était majeur. Vous avez vu comment ça a pris de temps. Les négociations avec les médecins, c'est d'autres changements de fond. Mais quand on fait ça, on règle d'autres choses. Moi, je pense que des gens qui sont en train de revenir dans le réseau, j'ai de la main-d'œuvre indépendante dont je vous parlais tantôt, les agences, qui commencent à revenir. Plus il y a de gens, plus il y a des gens qui vont vouloir venir pratiquer parce que les gens vont être dans un environnement plus agréable, plus de personnes.
Savez-vous, en regardant votre tableau, combien de gens ont quitté des agences pour se joindre au secteur public?
Au moins 1000 dans le dernier mois. Fait que ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. 1000 personnes qui sont revenues juste dans la région de Québec. Il y a deux semaines, on me disait que c'était 250. Ça, c'est encourageant. Puis ça, là, c'est même avant les votes qui vont se faire par la Fédération des infirmières. Alors, il y a un mouvement qui est en train de se créer, M. Arcand. On n'est pas rendu à l'endroit où je voulais, mais je peux vous dire qu'on est dans la bonne direction.
Les mouches au bloc opératoire de Sacré-Cœur, c'est dans le Journal de Montréal, puis des mouches, puis des coquerelles dans la cuisine d'un CHSLD à Cartierville.
Est-ce que j'ai besoin de commenter que ça n'a pas de bon sens? C'est ça qui est difficile du travail que je fais puis de mes collègues, c'est de voir qu'on travaille sur les bonnes choses, mais quand arrivent des choses comme ça, puis je dirais pas que c'est anecdotique, on en a toutes les semaines des différents cas qui sont pas acceptables, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
Mais c'est parce que moi, là où j'accroche, là, c'est...
Dites-moi donc ça.
Ça peut arriver, OK? Puis c'est arrivé dans d'autres hôpitaux, puis c'est arrivé dans d'autres CHSLD. Là où j'ai un problème, c'est quand le porte-parole ou le directeur des actifs immobiliers du CIUS dit « Les résidents n'ont pas été informés de la situation. » Je parle du CHSLD. Ouais. « Parce que leur sécurité n'a jamais été compromise. » Moi, si j'habite dans une résidence de vieux puis qu'il y a des souris puis des coquerelles, j'aimerais ça le savoir, dans la cuisine.
C'est un petit peu... quand on a... Écoutez, vous avez raison, puis ça, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il faut remettre la responsabilité sur nos gens locaux de s'en occuper. Là, moi, j'ai demandé, quand j'ai su ça, j'aurais aimé ça le savoir avant. OK, je l'ai su, là, aujourd'hui, que c'est arrivé. Qu'est-ce que je vais faire? Mais là, je vais envoyer un inspecteur, puis je vais aller voir, est-ce que c'est juste là que ça arrive? Je trouve pas ça acceptable. J'essayerai pas de vous dire que c'est correct, mais je veux que la responsabilité locale soit de s'en occuper, d'informer les gens, et que les gens puissent faire une plainte. Moi, il faut être capable de dire que ce genre d'événement-là ou de situation-là n'est pas acceptable dans un réseau de santé qu'on veut améliorer.
En terminant, à quel moment on va connaître qui sera la présidente, on pense que c'est le cas, et où le président de Santé Québec?
Ça s'en vient, les entrevues des personnes là, qui ont été sélectionnées sur un groupe restreint. Puis on me dit qu'on a de très, très bons candidats. Ça se fait là, dans les deux prochaines semaines. Alors, je suis très encouragé parce que on a eu beaucoup de candidats pour le conseil d'administration. Puis on a d'excellents candidats au poste de président ou présidente pour Santé Québec.
Il y en a combien au final là, pour le dernier droit, là, comme ça?
Je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas. Mais je vais vous le dire quand on va l'avoir choisi.
Parce que vous êtes en négociation.
Ben non, parce qu'il y a un comité de sélection dont je fais pas partie, mais j'ai très hâte parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir...
Avez-vous un mot à dire sur qui aura le poste?
Oui, parce que on va faire une recommandation, puis c'est sûr que moi et au Conseil des ministres, après que les employés supérieurs auront fait toutes les entrevues, les tests, etc., mais ce qu'on me dit, puis je vais croire les employés supérieurs, c'est qu'on a d'excellents candidats, alors j'ai très hâte de pouvoir vous en parler.
L'embarras du choix du Top Gun.
Et voilà.
Merci, M. Dubé.
OK, au plaisir.
Au plaisir. Christian Dubé est le ministre de la Santé.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Je parle maintenant avec le capitaine Pascal Desrochers, qui est pilote maritime depuis plus de 15 ans et président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central. Monsieur Desrochers, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je sais que vous prenez connaissance, évidemment, de la situation comme tout le monde, là, mais qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des éléments là, qui seraient importants de comprendre?
Écoutez, il est trop tôt pour avoir les causes exactes de cet incident-là. Une des pistes de solution, c'est probablement une panne de la machine principale et du gouvernail qui peut expliquer une situation comme ça. Par contre, je vais profiter de la tribune que vous me donnez pour rassurer quand même les gens. Là, je viens de prendre connaissance des images et on voit que le navire a percuté un pilier du pont à Baltimore. Les infrastructures ici qu'on a dans nos secteurs de pilotage sur le fleuve Saint-Laurent sont très bien protégés au niveau des piliers. Alors, ce type d'incident-là chez nous serait peu probable. On a 4 ponts qui traversent le fleuve entre l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Il y a le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte, le pont La Violette et le pont Jacques-Cartier. Et dans les années 70, le pont La Violette avait été identifié comme une structure qui était très vulnérable. Et au milieu des années 80, il y a des enrochements qui ont été faits tout le tour des piliers pour justement prévenir une collision avec un navire en cas de panne. Et puis, ça prévient, le navire ne pourrait pas toucher ou percuter un pont du pilier. Alors, je tiens vraiment à rassurer les gens qu'une situation comme ça dans nos eaux ici est très, très peu probable.
Et est-ce qu'on a dans nos eaux ici des porte-conteneurs aussi gros que ça, que celui qu'on voit là à Baltimore?
Non. À Baltimore, il y a des navires qui vont aller jusqu'à, si ma mémoire est bonne, des 12 000, 14 000 TEU, là, des conteneurs, des équivalents des conteneurs de 20 pieds. Nous, dans nos eaux, là, les plus gros qu'on va voir, c'est 5 à 6 000 conteneurs, alors la moitié du gabarit. Dans ce cas-là, c'est pas dans les plus gros navires, le navire, le Dali, là, qui a percuté le pont, ce n'est pas dans les plus gros navires qui vont à Baltimore. Ici, à Montréal, les plus gros navires qui vont procéder jusqu'au port de Montréal ont 300 mètres de long, comme le Dali. Par contre, ils sont beaucoup moins larges. La plupart ont environ 32 mètres de large. Dans le cas du Dali, on parle d'un navire de 48 mètres de large. Alors, on parle d'un tout autre type de navire là, qui est beaucoup plus gros.
Bon, vous l'avez dit, on peut pas spéculer, mais il y a une question qui revient de mes auditeurs depuis ce matin, là. Est-ce que c'est un système automatisé? Est-ce que c'est le pilote qui contrôle de A à Z? Ça fonctionne comment, le pilotage de ces immenses bateaux?
Oui, le pilote, lorsqu'il monte à bord, prend la conduite du navire. Mais dans ce cas-là, comme je dis, on peut pas spéculer pour l'instant, mais il y a de fortes chances que il y a eu une panne de machine. Ici, je peux pas parler pour Baltimore au niveau de la formation des pilotes, mais ici, la formation est très poussée. Sur des navires, les navires de plus fort gabarit qui viennent à Montréal, de plus grandes dimensions, on va toujours mettre 2 pilotes sur le navire pour justement assurer une certaine redondance. Alors, on augmente le niveau de sécurité. Puis nos pilotes sont aussi formés pour des manœuvres d'urgence. Là, ça arrive une panne de machinerie, une panne de gouvernail, comment réagir à ça? L'utilisation des ancres comme frein pour pouvoir soit faire dévier le navire d'une trajectoire où il irait percuter une structure ou pour simplement freiner le navire. Dans ce cas-là, j'ai pas les particularités au port de Baltimore. Est-ce qu'il faisait face à, est-ce qu'il y avait un fort courant qui poussait le navire? Est-ce qu'il y a une marée importante? J'ai pas ces informations-là.
Mais ce qui nous frappe, là, c'est de voir, d'abord, un, l'impact, et deuxièmement, c'est de voir quasi la totalité de la structure s'effondrer.
Absolument, absolument. Et puis, encore une fois, pour rassurer les gens, si je prends l'exemple du pont Pierre-Laporte à Québec, les piliers sont sur la terre ferme, à l'extérieur du chenal. Alors, c'est impossible d'aller percuter les piliers. Le pont La Violette a été enroché, d'immenses enrochements tout le tour des piliers qui font en sorte qu'on ne peut pas se rendre jusqu'aux piliers. Le contact, la collision va être atténuée par ces enrochements-là. Au niveau du pont Jacques-Cartier à Montréal, ben, les navires de plus gros gabarit ne procèdent pas jusqu'au pont Jacques-Cartier. Ce sont seulement les navires qui vont aller dans la voie maritime ou vers le vieux port de Montréal. Donc, ce sont de plus petits navires qui sont beaucoup moins imposants que le navire qui est en cause à Baltimore. Et ça se fait à vitesse réduite également. Les navires qui vont passer près de la rive sud, les gens peuvent voir à l'occasion les navires qui vont vers l'écluse de Saint-Lambert. Mais ce sont des navires de plus petits gabarits et ça se fait à vitesse réduite. Et les piliers du pont Jacques-Cartier sont immenses, d'immenses structures de béton pour protéger le pilier. Alors, nos infrastructures sont très, très, très bien protégées. Ça a été prévu.
Merci beaucoup. Vraiment très éclairant.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, bonne journée. Le capitaine Pascal Desrochers, qui est pilote maritime depuis plus de 15 ans, est président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central, le hockey mineur. Vous avez sans doute vu ces images. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait parvenir cette vidéo où on voit des parents, il y a même un entraîneur, lors d'un match de hockey avec des ados. Et ça se met à capoter, ça se met à crier, à insulter l'arbitre. On lance des gobelets de café, une poubelle sur la patinoire. Ce sont des événements dont on a tellement parlé, puis c'est peut-être le printemps, puis c'est peut-être le fait qu'on se retrouve dans les derniers moments de la saison de hockey, qu'il y a de plus en plus de gens dont les fils se touchent. Marjorie Nedding est avec nous. Elle est la mère d'un jeune joueur de hockey de 10 ans qui joue pour les Lions de Saint-Jérôme, et elle a été témoin d'une partie de ce qui s'est passé parce qu'elle attendait pour que le match de son fils se débute. Madame Nedding, bonjour.
Bon matin.
Racontez-nous ce que vous avez vu.
En fait, c'était les Concorde de Mirabel qui jouaient contre les Patriotes de Saint-Eustache. Il devait rester à peu près 2-3 minutes à la partie. Les Concorde perdaient 3-0. Puis le coach des Concorde a commencé à s'énerver contre les arbitres. Il devait pas être en accord avec ceux-ci parce qu'il est monté sur le banc. Il a commencé à envoyer promener les arbitres. À crier contre eux autres. Ça a duré vraiment quelques minutes. Dans les estrades aussi, ça insultait les arbitres. Là, après, l'arbitre a décidé de mettre fin à la partie, après tout ça. Puis là, ça a vraiment commencé à s'envenimer. Le coach s'est encore plus énervé. Mais il y a aussi dans les estrades deux, trois femmes, on s'entend que c'est des mères, des adultes, qui ont commencé à s'énerver encore plus, puis à lancer, ils ont lancé leur café sur la glace, puis une poubelle, là, comme on a pu voir sur les images.
Quand vous dites crier après l'arbitre, qu'est-ce que ces femmes-là, qu'est-ce que ces mères de jeunes joueurs disaient à l'arbitre? Est-ce que vous l'avez entendu?
Moi, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais de l'autre côté des estrades. Moi, je voyais juste le non-verbal de ces deux, okay, trois femmes-là. J'ai vraiment pu voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont dit quand j'ai vu les images.
Et les jeunes qui étaient sur la glace, eux, quand ils voient l'entraîneur puis leurs parents probablement s'exciter comme ça puis gueuler, ils font quoi, les jeunes? Ils regardent ça?
Oui, je dirais que ceux des Concordes, tu sais, ils étaient vraiment emportés par qu'est-ce que le coach faisait puis tout ça. Puis quand l'arbitre a décidé de mettre fin à la partie, moi, mon fils est embarqué sur la glace, puis l'équipe des Concordes, ils avaient terminé de se déshabiller, puis ils ont comme passé devant toutes nous autres, puis ils ont continué à injurier les arbitres qui étaient sur la patinoire. Fait que moi, je me demande, qu'est-ce que le coach a dit dans la chambre pour que les jeunes, en sortant, soient encore fâchés contre eux autres. Là. Vraiment, il a fallu qu'il y ait un discours dans la chambre du coach. pour
les craquer, peut-être, oui. Mais là, exactement. On parle, quand vous me dites des jeunes, là, ils ont quoi, 12-13 ans?
Oui, ils ont 12-13 ans. C'était c'est du PIWI, le M13, la catégorie A. Fait que oui, c'est des 12-13 ans.
Et d'après vous, l'arbitre, il a quel âge environ?
Il y avait un arbitre, c'est plate de donner un âge à quelqu'un, là, mais il devait avoir dans 50-60 ans. Et il y avait une jeune femme aussi sur la patinoire là, qui était arbitre.
OK, puis qui se faisait crier le plus après, la jeune femme ou le gars dans la cinquantaine?
Moi, de ce que j'ai vu, c'était le gars dans la cinquantaine qui se faisait crier après par les deux bonnes femmes de l'autre côté. La jeune femme, elle, parlait avec le marqueur puis le coach de l'autre équipe.
Puis dites-moi, votre garçon, il y a 10 ans, là, quand il voit des affaires comme ça, est-ce qu'il vous fait part de certaines confidences?
Ben, en fait, je ne sais pas si mon fils a eu... lui, il était dans la chambre en train de s'habiller. Ouais. Fait que je ne sais pas s'il a eu connaissance de ça. C'est ça. Fait que je ne sais pas s'il a eu connaissance de ça.
Puis vous en pensez quoi?
Moi, je trouve ça épouvantable que tu sais, je le voyais à la télé, tu sais, quand ça se passe, tout ça, mais quand tu vois ça de tes propres yeux, tu te dis, voyons donc, c'est des enfants, c'est un jeu, c'est des mères, c'est des parents, c'est des adultes. Quel message que tu envoies à ton enfant qui est sur la glace? Puis, tu sais, il y avait des enfants aussi dans les estrades, là. Là, on le voit sur les images là, des parents qui tenaient leur enfant dans leurs mains. Ça n'a pas lieu d'être. C'est épouvantable, c'est un jeu. Moi, si mon fils avait été dans l'équipe de ce fond-fond-là, là, comme vous dites souvent, je retirais mon fils complètement de cette équipe-là. Là. Ça n'a pas d'allure.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Marjorie Nedding, qui était présente. C'est la mère d'un jeune joueur de hockey de 10 ans qui a vu ça. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Puis la frustration. Puis je suis pas convaincu que ces adultes-là, quand ils ont vu les images, là, parce que ça a circulé beaucoup, beaucoup hier, doivent être très fiers de leur comportement. Là. Tu peux perdre le contrôle. Mais là, il y a un moment donné, il y a une limite. Là, la poubelle, c'est la patinoire. Puis je sais pas ce qu'il y a dans l'air à Saint-Jérôme, mais moi, on me parle d'une série d'événements où il y a quand même pas mal d'enjeux de parents comme ça agressifs. En tout cas, c'est le genre de message que je reçois beaucoup actuellement de parents de jeunes joueurs de hockey.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, le dossier de l'éclipse. Sérieusement, c'est pathétique dans un sens de voir à quel point on assiste à une espèce de comédie tragique dans la mesure où vous avez des directives. Le ministre de l'Éducation doit sortir pour corriger, nuancer, préciser les propos de la sous-ministre qui a envoyé une directive. Je reçois des notes d'école où on a une espèce de plan étalé sur plusieurs jours. Là, mais tu te dis, comment ça se fait qu'on est rendu là? Et l'autre question fondamentale, pourquoi des élèves québécois auraient accès à cette journée avec un enseignant, une façon de vivre l'expérience, répondre aux questions, alors que d'autres seront en journée pédagogique à la maison? Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens, surtout que c'est un événement, on va se le dire, assez prévisible. Pierre Chastenay est avec nous. Il est astronome, communicateur scientifique et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Chastenay, bonjour.
Bonjour.
Bon. D'abord, je veux vous entendre là sur à peu près les différentes positions contradictoires qu'on entend. Des gens qui disent oui, ce sera une journée pédagogique. Non, on va permettre aux élèves. Oui, mais les élèves vont rester en dedans. Là. Pourquoi vous pensez on assiste à autant de complications?
Ben, écoutez, on est à quelques jours de Pâques, alors j'ai envie de citer Jésus sur la croix qui disait « Mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je pense que c'est à ça qu'on assiste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec toute la bonne volonté du monde, ont eu peur d'avoir peur et se sont dit ben, « il faut absolument qu'on protège les élèves », pensant peut-être que l'éclipse allait faire fondre les élèves qui seraient à l'extérieur au moment de la totalité ou je ne sais pas trop quel scénario ils se sont fait dans leur tête. Ce qui est vraiment déplorable, c'est que la décision, par exemple, prenons le cas des écoles qui seront fermées, qu'est-ce qui arrive quand une école ferme? Ben, soit les élèves sont seuls à la maison parce que leurs parents travaillent, ou soit ils sont au service de garde. Le service de garde, c'est à l'école. Donc, on tourne en rond ici. Et puis, on sait que les personnes qui sont responsables des services de garde n'ont pas été formées pour observer l'éclipse. Ils n'ont pas de formation en gestion de classe. les personnes les mieux placées pour encadrer les élèves pour une observation sécuritaire de l'éclipse du 8 avril, ce sont les personnes enseignantes, ce sont les professeurs, les enseignantes du primaire et du secondaire, dont une grande, grande majorité sont déjà prêts à observer l'éclipse, ont déjà fait des démarches pour se procurer des lunettes d'éclipse, ont déjà commencé à parler du phénomène à leurs élèves. Et puis là, ben, du jour au lendemain, ces gens-là apprennent que leurs écoles vont être fermées. Moi, si j'étais une enseignante ou un enseignant du primaire ou du secondaire, je serais absolument frustré. Ce serait comme une gifle. Parce qu'essentiellement, ce qu'on vient dire à ces personnes-là, c'est on vous considère pas suffisamment compétente pour gérer vos élèves dans le cadre de l'observation d'un phénomène naturel qui est pas si dangereux que ça. Là, je veux dire, on pourra en reparler dans quelques instants, mais quand on sait quoi faire et comment observer, une éclipse totale de soleil, c'est pas plus dangereux que de sortir par une journée ensoleillée.
C'est parce que, je vous le dis, je reçois des copies de directives qui sont envoyées dans certaines écoles. Puis je vais essayer de résumer, là, puis vous avez parlé de la peur d'avoir peur, là. C'est qu'on dit aux enfants de se promener à reculons dans les corridors. Non, mais je vous le jure. Pour les plus petits là, qui sortent pas, ben si vous déplacez, faut pas marcher avec les lunettes dans l'école. Il y a des profs qui se sont fait dire de mettre du papier kraft dans les fenêtres pour que la noirceur soit là toute la journée. On va présenter un film. C'est comme si on a peur que tous les enfants se mettent à fixer le soleil puis que tout le monde devienne aveugle dans l'espace de 3 secondes.
Non, c'est complètement ridicule. J'en ris, mais c'est pas drôle. Ce qu'il faut rappeler, puis ça, c'est très important de le dire, puis je suis content de parler à vos auditeurs ce matin pour rappeler cette vérité-là. Il ne faut jamais regarder le soleil directement à l'œil nu. En n'importe quelle circonstance, c'est dangereux. D'habitude, quand on est dans une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, vous ne pourriez pas regarder le soleil très longtemps. Vous êtes aveuglé, vos yeux se remplissent de larmes, vos paupières se ferment, vous détournez le regard. Ce sont des réflexes qui protègent, dans le fond, notre rétine. Le danger, il se produit, je vous dirais, 15 à 20 minutes avant la totalité et 15 à 20 minutes après la totalité. Parce qu'à ce moment-là, il y a plus de 90 % de la surface du soleil qui est cachée par la Lune. Et donc, globalement, le soleil est moins aveuglant que d'habitude. Et les réflexes qui nous protègent d'habitude contre l'éblouissement ne fonctionnent plus. Sauf qu'il faut rappeler que, à ce moment-là, la partie de la surface du soleil qui reste visible, qui n'est pas encore cachée par la Lune, elle est aussi brillante qu'avant. Et par conséquent, si vous observez pendant plusieurs secondes durant ces quelques minutes de totalité partielle avec vos yeux nus sans protection, là, effectivement, il peut y avoir des risques. Maintenant, si on explique aux élèves et à la population en général que la meilleure façon d'observer, c'est d'utiliser des lunettes d'éclipse, de les garder sur ses yeux tant que l'on voit même une infime fraction de la surface du soleil qui n'est pas encore cachée par la Lune, ben, il n'y en a pas de danger. Si vraiment les gens sont inquiets pour leurs enfants, pour leur propre vision, il est possible de suivre le phénomène sans jamais regarder en direction du soleil, juste en projetant une image du soleil, soit au fond d'une boîte à chaussures ou avec une passoire en projetant des images du soleil au sol. Bref, il est tout à fait simple et facile d'observer une éclipse totale de soleil sans danger, si on se donne la peine de donner la bonne information. Mais comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a une telle confusion qui règne en ce moment dans les communications qui viennent du ministère de l'Éducation, de la Sécurité publique, qui, soit dit en passant, a placé toutes ces informations à propos de l'éclipse sous la rubrique sinistre et catastrophe naturelle. Déjà, oui, ouais. Ça en dit long sur la pensée gouvernementale par rapport à ce phénomène-là. Alors, le message ce matin, encore une fois, c'est arrêtez d'avoir peur de l'éclipse. Au contraire, profitez de cette occasion-là pour en faire une fête de la science, pour montrer à quel point nous sommes connectés avec l'univers, puis de permettre aux enfants de vivre un événement qui ne se reproduira pas dans leur vie avant un siècle ou deux.
Monsieur Chastonnet, là, je vais aller dans un secteur plus personnel. Une source me dit que vous avez fait la grande demande en mariage à votre conjointe en 2012, sauf erreur, lors d'une éclipse totale.
C'était en 2010, mais pour le reste, okay. Vous avez raison. Nous étions à Tahiti. C'était là que l'éclipse était visible sur un atoll de la Polynésie française. Et puis effectivement, c'est durant l'éclipse, ma conjointe et moi avons échangé nos vœux de manière très privée et informelle, si vous voulez. Pour la petite histoire, le malheur, c'est qu'au moment de la totalité, il y a un gros nuage qui est arrivé, ce qui fait qu'on n'a jamais vu le soleil éclipser. Mais ça reste quand même un très, très beau souvenir pour ma conjointe et moi, effectivement.
Parce que l'autre question en terminant, on ne sait pas encore quelles seront les conditions météo le 8 avril prochain. Là, je regardais, c'est à long terme, on parle de ciel variable, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Oui, effectivement. Non, on n'a pas encore les données météo qui nous permettraient de faire une prévision autrement que statistique. Ce que l'on sait, c'est que traditionnellement, le 8 avril, les chances de nuages sont de 60 à 75 %. Donc, c'est peu probable. J'espère qu'il va faire beau parce qu'il y aura tellement de gens qui vont vouloir observer le phénomène. Ce serait dommage que l'on soit sous un ciel nuageux. Cela dit, si les nuages qui sont présents dans le ciel sont relativement minces, vous allez quand même sentir la baisse de luminosité. Ça va être quand même assez marqué. S'il pleut à boire debout, s'il y a une tempête de neige, si la couverture nuageuse est très épaisse, mais là, il est possible qu'on ne sente pas vraiment la baisse de luminosité. Donc, qui vivra verra, comme on dit.
Monsieur Chastonnet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
Au revoir. Pierre Chastonnet, astronome, communicateur scientifique et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Maintenant, avec nous, Éric Deguire, qui est le directeur général du Collège Saint-Jean-Vianney et aussi président de l'Association des directeurs et directrices d'établissements scolaires de l'enseignement privé au Québec. Monsieur Deguire, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Bon, dans vos écoles privées, là, quel est le portrait, c'est-à-dire combien d'écoles vont accompagner les étudiants et les élèves, combien ont décidé de les garder à la maison pour faire une journée pédagogique? Comment ça se passe dans vos écoles?
Ben, c'est extrêmement variable, ça dépend des situations. Il y a des écoles qui ont organisé des activités extraordinaires, il y a même des écoles qui ont invité les parents à participer à ces activités-là dans l'après-midi. Puis il y a d'autres écoles qui vont être en service de garde, d'autres qui sont en journée pédagogique. C'est vraiment variable. C'est selon. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est bon, oui, vous l'avez parlé tout à l'heure, j'ai écouté M. Chastonnet. On a reçu des consignes le 28 février dernier qui, honnêtement, quand ça commence avec un gros logo qui fait peur, ben c'est sûr qu'il y a même des écoles qui pensaient organiser des choses qui ont été de reculons parce que ça mettait une énorme responsabilité sur l'équipe école. Qui pouvaient sentir, qui au départ organisaient des choses, puis on en a reçu une nouvelle lundi cette semaine pour nous dire finalement non, organiser des choses. La plupart des écoles privées sont en congé pour la semaine prochaine, en deuxième relâche d'avril, donc ça veut dire que ça leur laisse 3 jours pour sortir de bord. Fait que les décisions qui ont été prises ont été maintenues. Fait que c'est vraiment variable. Prenez une école qui termine à 14h30, ben, on dit de pas laisser aller les enfants de 14h30 environ à 16h30 à l'extérieur sans supervision. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec le transport scolaire? Qu'est-ce qu'on fait avec le service de garde? Qu'est-ce qu'on fait avec nos marcheurs? Fait que c'est sûr qu'il y a certaines de ces écoles-là qui ont préféré tomber en pédagogie pour organiser une activité avec un plus petit nombre. D'autres écoles, comme chez nous, ce qu'on a fait, l'école que je dirige, c'est qu'avec l'équipe école, on a décidé de modifier notre horaire. On l'a repoussé. Donc, on commence plus tard et on termine plus tard. De façon à faire une activité avec nos 1500 élèves dans l'après-midi. Fait que c'est vraiment géométrie variable selon les différentes situations. Puis je pense pas qu'on peut jeter la pierre aux directions d'école qui vivent avec la réalité qu'ils ont puis les informations qu'ils ont reçues.
Non, mais l'idée, c'est pas jeter la pierre. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu le zoo depuis le début de cette affaire-là. Ouais. Parce que, vous le dites, les directives changent. Tu sais, je reçois des... Puis je lis devant moi là, le mémo d'une école. Je veux pas la nommer, mais ça traduit là, l'espèce de sentiment. T'sais. Il faut pas, pendant la journée, introduire une nouvelle matière ou de nouvelles données. Donc, d'apprendre quelque chose aux élèves pendant cette journée-là, parce qu'il va en manquer. Deuxièmement, de mettre du papier craft dans les fenêtres pour être bien sûr que personne puisse voir ce qui se passe. Présenter un film. C'est comme là, si on, ouais. Ça donne un sentiment de peur, de dire, là, c'est épouvantable ce qui s'en vient, puis peut-être que vous êtes pas prêt.
Ben, vous avez raison que ça donne un sentiment de peur au départ, mais c'est pas le sentiment que la majorité des directions d'école avaient au début. Nous, dès le début de l'année scolaire, on savait, là, je veux dire, c'est un événement connu, vous l'avez dit précédemment. Donc, dès le début de l'année scolaire, on se préparait pour le 8 avril pour organiser une journée pédagogique. Ben, une journée, ben, pas pédagogique dans le sens qu'il n'y a pas d'école, là, mais une journée pédagogique intéressante, reliée à l'éclipse. Nos enseignants de sciences se sont retroussés les manches, on fait un feuillet d'informations, une capsule vidéo, on a renseigné nos familles, puis on était prêts. Mais quand le 28 février dernier, là, on a reçu la missive du ministère de l'Éducation, puis encore là, c'est pas pour blâmer personne, mais la première chose qu'on voit, c'est un gros triangle avec le point d'exclamation, attention en lettres majuscules, il ne faut pas observer l'éclipse scolaire à la nuit pour toute la durée de l'événement, dommage permanent aux yeux, perte partielle de la vue. Après ça, tu as un gros X sur ce qu'on peut pas faire. Puis ça dit que il faut s'assurer que chaque enfant doit être supervisé pendant toute la durée de l'éclipse, donc pendant les 2 heures. Là, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que oui, ils ont eu peur, ils ont dit comment puis-je prendre la responsabilité de ça entièrement. Fait que la première ici, oui, elle a fait peur à plusieurs personnes. Il y a des écoles qui ont décidé, suite à cet envoi-là du 28 février, de ne pas organiser d'activité, puis d'autres qui ont décidé de maintenir ce qu'ils avaient organisé, ce qui est notre cas.
OK. Merci, M. Deguire. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Ah, bonne journée à vous.
Au revoir. Éric Deguire est le directeur général du Collège Saint-Jean-Vianney à Montréal et président de l'Association des directeurs, directrices d'établissements scolaires de l'enseignement privé au Québec. Sérieux, là. C'est gênant. C'est gênant de voir la capacité de la machine en éducation de compliquer quelque chose qui est simple. Le choix des mots, le choix des logos, l'espèce de chorégraphie mal barrée depuis le début pour un phénomène naturel qu'on reverra pas de notre vivant, là, puis que les enfants sont assez intelligents pour regarder de façon sécuritaire et suivre. Non. Non, ici, c'est la peur d'avoir peur, c'est la loi de trois épaisseurs, et c'est aussi probablement des mises en garde des compagnies d'assurance. Puis heureusement, à travers ce marasme, il y a des humains intelligents qui apparaissent puis qui disent, ben nous autres, on va s'arranger pour que ça puisse fonctionner. Malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les écoles, puis je peux comprendre des réalités différentes. Puis le premier à botter, j'ai sauté le mot, c'est le ministère. C'est le ministère qui aurait dû donner le ton. Et là, c'est en improvisation totale.
C'est 23.